Stéphane Toth, bonjour.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, nous vous avions quitté sur un début d'inventaire des livres papier que vous gardez précieusement dans vos coffres. Votre gourmandise partagée m'avait donné l'eau à la bouche.
Tant mieux.
Alors, nous est venue une idée, celle de présenter certains livres particuliers. Et ils ont de particulier que vous les avez déclarés rares. Alors Stéphane, qu'ont-ils de si rares ces livres?
Ils ont de rares qu'ils ont quelque chose de spécial qui m'a touché, quelque chose qui a touché ou mon cœur ou mon esprit. Et là, je vais vous parler d'un livre aujourd'hui qui s'appelle Quicksilver et qui m'a emporté dans un voyage absolument incroyable.
Alors, la semaine dernière aussi, vous nous disiez que vous lisiez pas mal de livres en anglais ou en espagnol.
Oui.
Ce livre-là est-il justement en langue originale?
Oui, je l'ai lu en anglais.
D'accord. Et existe-t-il en français?
Probablement. En fait, j'ai pas regardé.
D'accord. Bon. Alors, dites-moi de qui est ce livre.
C'est un livre de Neal Stephenson.
D'accord.
Qui est un écrivain américain, qui écrit habituellement de la science-fiction. Et ce livre n'est pas de la science-fiction, c'est un livre de fiction historique.
Alors dites-nous en plus.
Donc c'est l'histoire d'un personnage fictif qui s'appelle Daniel Waterhouse, qui va vivre depuis le grand incendie de Londres et à travers la peste de Londres et ensuite à travers toute l'époque de son histoire. La création d'abord un peu secrète et clandestine, puis la force de leur présence de la Royal Society of Science. Et donc on va croiser Newton, on va croiser des nobles, on va croiser toutes sortes de gens qui vont traverser à la fois l'époque et les pays, et c'est vraiment incroyable. Donc il y a... On démarre dans un monde qui est la fin du Moyen-Âge, où le pouvoir est vraiment tenu par les nobles et par la religion. Et des gens comme les scientifiques de l'époque, comme Descartes, comme Huygens, comme Newton, vont devoir créer des stratégies pour pouvoir développer leur travail et le faire progresser sans entrer en conflit direct avec les dogmes de l'Église et les structures de pouvoir existantes. Et pourtant, les choses qu'ils sont en train de découvrir, la physique moderne, le calcul intégral, la méthode scientifique expérimentale, vont pratiquement anéantir cet ordre ancien et le remplacer par le monde moderne. Et comme c'est en Angleterre, ça montre aussi la croissance de l'Empire anglais, comment cette science qui s'est développée a aussi servi à développer la pensée économique, à développer il y a notamment un chapitre extraordinaire où Newton met en place une méthode scientifique pour, comment dire en français, pour fabriquer les pièces à la Banque d'Angleterre pour qu'on ne puisse plus faire de fausses pièces. Et ce qui va donner à la monnaie anglaise une force et une stabilité qu'elle n'avait pas avant, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de fausses monnaies en circulation. Et cette monnaie qui va devenir forte, plus l'industrialisation, plus tous les progrès scientifiques vont permettre de créer un ordre nouveau qui va être d'ailleurs supporté par diverses factions dans la noblesse anglaise et aussi avec les grands voyages à travers le monde et les rivalités avec les autres royaumes d'Europe, de la France, de l'Allemagne, etc. C'est vraiment un roman qui fourmille chapitre par chapitre d'histoires, d'anecdotes, de détails et dans un grand dessin qui est absolument spectaculaire et qui dure comme ça depuis la toute jeunesse d'un Daniel Waterhouse qui est une sorte de brillant garçon qui devient le compagnon de chambrée de Newton et un petit peu son domestique parce qu'il était un peu... il n'était pas noble, il était juste intelligent. Mais il va créer avec lui une relation personnelle où il va être toléré par ce génie qui est... à la fois extrêmement excentrique, extrêmement secret et qui va être aussi au plus proche du pouvoir de à travers la Royal Society, à travers la banque d'Angleterre et aussi à travers tous les travaux d'alchimie sur lesquels il travaillait, qui intéressaient beaucoup de nobles qui voulaient acquérir toutes sortes de pouvoirs que l'alchimie était censée donner. Et donc ce Daniel Waterhouse pourra devenir un caractère qui va être un peu neutre et qui va être capable d'aller parler avec tout le monde. Et on le suit pendant tout le livre. Il y a aussi d'autres personnages qui sont absolument incroyables. Il y a un pirate qui va être nommé l'emmerdeur, en français dans le texte, parce qu'il a la capacité de se sortir de toutes les situations avec une inventivité qui est vraiment réjouissante et qui va en permanence contrecarrer les destins de personnes, de grands dirigeants, de personnes extrêmement importantes, et il va toujours faire des plans pour essayer de continuer sa vie de pirate il y a une histoire d'amour évidemment, il va faire tout ça pour essayer de se rapprocher de la femme qu'il aime, et c'est vraiment très intégré avec des détails de la vie de l'époque, c'est-à-dire c'est comme c'est un pirate, il va voyager aux États-Unis, en Inde, il va rencontrer une princesse pirate, il va être capturé, il y a une bonne description, par exemple, à l'époque, quand les gens voyagent en bateau sur des si longues distances, ils ont le scorbut, ils perdent leurs dents, ils deviennent moches, et au fur et à mesure où l'histoire se déroule, il perd pas d'énergie, mais il devient de plus en plus abîmé physiquement, il a un pied qui marche pas bien, il a perdu toutes ses dents, il devient chauve, et c'est vraiment les corps dans ce livre bougent avec toutes leurs aventures, et il n'y a pas la science encore justement qui est en train d'être développée, où aujourd'hui on peut aller chez le dentiste, on peut mettre des lunettes, on peut aller chez l'ostéo, on peut se faire réparer de mille façons, on peut se mettre des prothèses partout, mais à l'époque, non. Et donc, même les rois ont la goutte, ou ils ont des maladies. Et donc, ce côté mélange de superstition, de manque d'hygiène, d'aventure, de banquet, etc. Et il y en a du début à la fin. Et il y a des histoires avec des pirates, il y a des histoires où ils sont esclaves capturés par les morts, et à chaque fois il y a des personnages qui vont nous donner une vue sur une partie de cette époque. Il y aura par exemple un Africain qui est le neveu d'un roi au fin fond de l'Afrique que personne connaît, et en tout cas personne de l'époque ne peut imaginer ce que c'est, et ce personnage va être captif, esclave, attrapé par les morts en même temps que des Anglais. Ils vont se mettre d'accord pour s'évader, ils vont coopérer, inventer des... La manière aussi dont les gens apprennent et parlent plein de langues, ça aussi, ça m'a beaucoup plu. C'est tout entre les Russes, les Allemands, les Arabes, les Ottomans, les Anglais, tout le monde trouve une espèce de sabir, de charabia pour se parler entre eux, et ça fait vraiment vivre l'époque d'une façon qui m'a emballé. Et en plus, c'est une trilogie, ça dure très longtemps, c'est vraiment... ce genre d'ouvrage, moi je les lis pas d'un bloc, parce que ça prend vraiment trop de temps, mais il m'accompagne pendant, par exemple, je les mets dans mon Kindle, puisque je les lis en numérique, et chaque fois que j'ai un moment, je vais replonger dans cette histoire, et cette trilogie, elle m'a accompagné pendant, je sais plus, 6 ou 7 mois, et pendant 7 mois, j'ai vécu une vie parallèle, voilà, j'étais avec vous, à mon travail, etc., et en même temps, je vivais à l'époque de Newton, et je parcourais le monde de l'époque, et j'avais des aventures extraordinaires, voilà, et ce livre est vraiment très très bien écrit, et je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, mais je vous engage à le lire.
Mais moi je trouve, enfin, c'est à couper le souffle, parce que j'allais vous dire, reprenez votre souffle, Stéphane,
oui,
parce
oui,
que
oui.
C'était vraiment, enfin, moi vous m'avez donné envie de le lire, en effet, ouais. Et de le lire presque d'une traite, comme vous me l'avez décrit en fait,
ouais.
Voilà, sans souffle, sans reprendre son souffle. Donc voilà, bah, écoutez, bah, je vous remercie Stéphane, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce livre? Mais je pense que moi il y a déjà pas mal, parce que peut-être qu'on va laisser nos auditeurs, nos web-auditeurs, regarder ou lire ce livre, pour en savoir plus.
Voilà, et donc c'est une trilogie qui s'appelle « Le cycle baroque » de Neil Stephenson. Le premier tome, c'est « Quicksilver ».
D'accord.
Le deuxième, c'est « Confusion », puisque c'est le moment où le système bascule. Et le troisième, c'est « The System of the World », le système du monde. C'est là où le nouveau monde apparaît et s'installe.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, merci, on va déjà digérer tout ça.
Ouais.
Et puis, on se retrouvera une prochaine fois pour un autre livre.
Avec grand plaisir.
Vous savez déjà lequel ?
J'en ai plusieurs en tête et mon cœur balance.
Ok. Eh bien, vous ferez votre choix à son moment.
D'accord.
Merci Stéphane.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.